Bon, c'est pas si vous voyez, mais vous avez la même chose sur vos feuilles. Vous pouvez regarder. Tout récemment, j'étais avec un groupe de personnes. On était en train de travailler avec cette organisation quand j'ai appris que le dirigeant de toute l'organisation était un prince, un vrai prince. Et aussi, il y avait une princesse qui était chef de ressources humaines, une vraie princesse. Et donc, en discutant avec les gens qui étaient là, j'ai appris qu'on n'a pas le droit de commencer une conversation avec le prince ou lui adresser la parole, on n'a pas le droit, ni non plus à la princesse. Il faut plutôt attendre qu'eux, ils vous adressent la parole avant de discuter avec eux. Qui met nous, les Américains, dans une difficulté, parce qu'on aime tellement parler avec les gens, poser des questions, savoir comment ça va. Donc, il y a cette fille, Julia, qui va dans l'avion. Elle rentrait d'un endroit et elle s'assoit dans le siège, dans l'avion. Et qui est-ce qui s'assoit à côté d'elle? Ben, c'est le prince. Le prince ne connaissait pas cette fille, mais elle travaille pour lui dans la même organisation, mais elle, bien sûr, l'a reconnue tout de suite. Et puis, elle dit rien jusqu'à ce qu'il se présente, et elle se présente. Et puis, vous savez ce qu'elle a fait pendant tout le vol de 4h30? Elle a travaillé sur son ordinateur avec la crainte, avec la peur de parler avec le prince. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en face de la royauté? Comment doit-on agir? Quelles sont vos expériences en étant devant la majesté, la royauté? Bon, aujourd'hui, nous allons regarder un passage qui est le passage de Matthieu chapitre 21, les versets 1 à 11. C'est ce que vous avez sur vos feuilles. Mais juste pour comprendre, il faut regarder le petit schéma qui est là. Comme le soleil se lève à l'est et va vers l'ouest, nous avons notre Sauveur Jésus, la lumière du monde, qui vient de l'est vers l'ouest, qui va descendre des monts des Oliviers dans la vallée de Cédron, avant de remonter dans la ville de Jérusalem, où il va purifier le temple. Et voici, c'est notre scène géographique, Jésus qui est à Jérusalem, ou qui veut aller à Jérusalem, et qui décide de faire quelque chose. Il décide d'annoncer publiquement que lui, il est le Messie qui devait venir, qu'il est le roi tant promis au peuple, un roi qui est venu pour apporter la paix et la liberté à son peuple. C'est ce roi-là qui arrive. Et donc, vous savez que parfois, quand j'étudie la Bible avec des gens qui ne le connaissent pas, et ça, on s'est fait assez souvent à travers les Let's Start Talking, par exemple, on utilise les textes de l'Évangile selon Luc en anglais pour que les gens puissent apprendre l'anglais, mais apprendre l'Évangile aussi. Et cela veut dire qu'on a des gens de toutes sortes, d'aucune religion ou de toute religion qui viennent pour apprendre l'anglais, mais ils vont apprendre aussi l'Évangile. Et une des questions que nous avons avant ce passage, est-ce que vous croyez que Jésus est un roi? Et presque 95% des gens vont dire non, il n'est pas un roi. Ce sont les autres qui pensaient qu'il était un roi, mais en réalité, il n'était pas. Mais si je leur pose la question, est-ce que vous croyez que Jésus a été crucifié? C'est presque 90% qui disent oui, je crois qu'il a été crucifié. Bon, regardons notre passage. Matthieu 21, 1 à 11. Jésus avec ses disciples. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici quand ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse à l'ânon, et l'ânon mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir Jésus dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait « Qui est celui-ci ? » Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Quand nous voyons ce qui se passe, nous voyons que Jésus délibérément décide de déclarer quelque chose. Il dit à deux de ses disciples d'aller chercher cet ânon, l'ânesse aussi, de chercher ces deux bêtes pour que lui, il puisse entrer dans la ville de Jérusalem. Et quand cela se passe, nous voyons que les foules se mettent ensemble pour acclamer Jésus, celui qui vient au nom du Seigneur. Nous voyons qu'il y a la joie quand Jésus y entre. Et nous voyons aussi qu'il y a Matthieu qui nous présente Jésus comme roi. Il est juste et victorieux, dit le thème. Humble et monté sur un âne. Bon, qu'est-ce que cela veut dire être monté sur un âne? Nous avons peut-être un roi qui va entrer sur un cheval. Cheval blanc peut-être, doré, qui entre. Mais ce n'est pas ça que nous avons. Nous avons cet âne et c'est assez intéressant en lisant ce que les pères de l'Église écrivaient sur cela. Par exemple, ici, Matthieu nous parle de deux bêtes, vous voyez? Et vous avez l'impression qu'on met les vêtements sur les deux bêtes et Jésus est en train de chevaucher entre les deux. Est-ce que vous voyez cela? Ça fait un peu cirque hein, que nous voyons. Et c'est intéressant, un père de l'Église a décidé que l'âne et l'ânesse représentent deux peuples, les Juifs et les païens, qui sont sous l'autorité de Jésus. Bon, c'est une bonne imagination, je ne sais pas si c'est cela qu'on a voulu montrer, mais c'est une bonne imagination. Un autre a dit que l'âne, avec ses longues oreilles, et dit qu'il est adepte, celui qui écoute la parole de Dieu. Bon, pourquoi ? On ne parle pas de ses oreilles dans ce texte. Mais qu'est-ce que nous savons? Pourquoi il se monte sur l'âne? Bon, Matthieu nous laisse quelques indices, n'est-ce pas? Il cite un passage de l'Ancien Testament, de Zacharie, chapitre 9, le verset 9, quelques 400 ans avant Jésus-Christ. Il dit, voici, vous avez le texte. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. » Donc, fille de Sion, c'est Jérusalem. Lance des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés, il parlera de paix aux nations. Et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse où il n'y a point d'eau. Alors, vous voyez la puissance que Zacharie parle de puissance du royaume, de celui qui allait venir. Il dit, il est un roi victorieux et il parle de la grandeur de son règne. Il vient à Jérusalem pour commencer son règne qui touchera, il dit, les extrémités de la terre. Que le royaume allait commencer ici à Jérusalem et aller jusqu'au bout du monde. Il parle de la paix de son règne. Il est celui qui vient en paix. Et il parle de la libération de son règne. L'alliance établie par le sang de celui-ci pour relâcher les prisonniers et pour pardonner. Alors vous voyez, quand le peuple d'Israël voit cela, quand les gens qui sont venus pour la fête de Pâques, qui aura lieu dans une semaine, quand ils arrivent à cela, ils voient Jésus entrer, le prophète de Nazareth, celui de Galilée qui faisait tant de miracles. Et quand ils voient cela, c'est le ferveur du roi. Et au lieu de se taire, ils commencent à crier. Et il faut savoir que probablement, si vous avez là, vous avez le mont des Oliviers, vous voyez que c'est à l'est, hein, sur le schéma que vous avez sur la page. Alors, c'est là où les gens du nord, qui n'habitent pas la Judée, vont faire du camping. Il n'y a pas beaucoup d'hôtels à Jérusalem, ce n'est pas une ville qui est très grande. Et donc, ils vont venir, et sur les monts, dans les jardins, dans les vallées, ils vont prendre, chercher des endroits où ils peuvent passer les nuits. Et la ville donc, de Jérusalem va grandir en population parce que les gens viennent de loin pour fêter la Pâque. Et où Jésus a fait la plupart de son ministère en Galilée. Et quand ces gens, ces Galiléens, qui sont sur les monts d'Olivier, qui sont dans les environs en train de faire du camping, quand ils voient Jésus arriver, pour eux, c'est la déclaration claire que Jésus est celui qui est tant attendu. Il est celui qui est le Messie. Et donc, nous lisons, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée, c'est-à-dire que le royaume vient. Et donc, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches aux arbres et les entendirent, il dit, sur le chemin. Bon, les vêtements, ils les reprennent comme cela, ils vont les mettre par terre, les animaux vont marcher dessus, ils vont créer un chemin de royauté pour Jésus. Ben, pourquoi ils font cela? Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement quelque chose que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons quand il y a un dignitaire qui arrive à Genève Aéroport? Qu'est-ce qu'on fait? C'est le tapis rouge. On ne va pas enlever les vêtements, les mettre par terre et puis faire marcher dessus, okay? Secouer et puis remettre. Ce n'est pas cela que nous faisons. Je ne crois pas qu'on les retrouve non plus avec des ânes. Non plus. Je crois que d'habitude, ce sont des limousines, n'est-ce pas, qui sont là pour les chercher. Mais ici, c'est comme cela. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit dans l'Ancien Testament, on voit l'histoire d'un roi qui s'appelait Jéhu. Et vous savez, Jéhu, c'est l'homme le plus pauvre de la Bible, parce que Jéhu, et puis il y en a là. Bref, vous savez très bien qui c'est. Mais Jéhu, il est nommé par Dieu, par le prophète, pour devenir le roi. Et le prophète vient lui voir, c'est pas publiquement qu'il le voit, et quand le prophète part, les hommes de Jéhu disent, « Qu'est-ce que ce prophète, ce fou, a voulu ?» te dire. Il a dit, ben, il est venu pour me dire que j'allais devenir le roi d'Israël. Et vous savez ce que ces hommes ont fait? Ils ont enlevé donc le manteau, ils les ont mis par terre pour que Jéhu marche dessus pour montrer qu'il était le roi. Et donc, tout ce qui se passe ici a une histoire. Il y a un message, et le message, c'est que Jésus est le roi. Mais quelle est cette histoire de couper des branches? Quelle est cette histoire de qu'est-ce qui se passe là? Bon, 200 ans avant, il y avait donc un roi qui s'appelait Antiochus Épiphane IV. Ça veut dire que ses parents ne l'aimaient pas beaucoup, hein? Antiochus Épiphane IV. Ben lui, il a voulu imposer l'idolâtrie dans le temple de Jérusalem. Et donc, il a fait en sorte que les idoles étaient entrées dedans. Et quelques années plus tard, un certain Judas Maccabée, lui, avec sa famille, a libéré le temple de Jérusalem et l'ont purifié. Et quand ils ont fait cela, les peuples ont coupé des branches pour que Judas Maccabée, le libérateur du peuple, marche dessus. Et vous savez qu'il y a une fête aujourd'hui qui parle de cela, qui s'appelle Hanouka. Ok? C'était pour la dédicace du temple, c'était la liberté du peuple, c'était la pureté du temple. Et donc, quand les gens voient Jésus arriver, c'est un nouveau Judas Maccabée, un nouveau libérateur roi qui arrive. Et donc, ils vont couper. Donc, vous avez tous ces symboles qui parlent du fait que Jésus est le roi. Et la réaction de foule va plus loin. Qu'est-ce qu'ils disent? Hosanna, ils disent. Hosanna veut dire « sauve de grâce ». Sauve de grâce. Et certains pensent que c'était une salutation qui avait perdu un peu sa signification, un peu comme adieu. Okay? Adieu, deux mots, hein? À Dieu. Mais quand nous disons adieu, nous ne disons pas va à Dieu. Nous disons simplement ciao. au revoir. Bon, dans le canton de Vaud, on dit adieu, ça va? Adieu, ok? On dit adieu pour tout, pour se voir et pour se dire au revoir. Mais comme ça, c'est très simple hein, de faire. Bon, les Genevois, vous faites la même chose avec salut, salut. Oui, salut. Donc, c'est les deux. Mais ici, ce que nous avons, c'est Hosanna dans les lieux très hauts. C'est par Jésus à Jérusalem que Dieu va sauver son peuple à la grâce. Dieu sauve, Hosanna. Le roi vient pour sauver. Je lis cela, ça vient de Psaume 118. Ce petit passage, bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Vous l'avez, hein, le texte. Le Psaume 118. Ouvrez-moi les portes de la justice. Par elles, j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Alors, juste vous dire une chose. Une des portes principales de l'esplanade du Temple se trouvait à l'est de la ville. C'est-à-dire, en descendant du mont des Oliviers, on avait la possibilité d'entrer à travers cette porte de l'est. Ouvrez-moi les portes de la justice, par elles j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. Et puis le verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Éternel, accorde le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons dans la maison de l'Éternel. Et puis le verset 28. Tu es mon Dieu. Je te célébrerai, mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Ça, c'est le psaume 118. C'est cela l'esprit du peuple quand il voit Jésus entrer sur l'âne dans la ville de Jérusalem. L'émotion de la foule. Il célèbre le salut offert par Dieu à tous. Le roi est là, il est présent. Et que faut-il faire? Bon, il faut fêter. De plus, cette célébration va entrer dans le temple même. Les enfants ne savaient pas qu'il fallait s'arrêter de crier quand ils sont arrivés dans l'esplanade du temple. Mais il y avait des gens qui savaient qu'il ne fallait pas parler. C'était les souverains sacrificateurs. Quand on parle du temple ici, on est en train de parler de la cour. Okay? On n'est pas dans le bâtiment même. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a des gens qui échangent de l'argent pour les gens, pour que les hommes puissent payer le taxe du temple. Il y a les bêtes qui crient. Il y a les oiseaux qui font le coucou, je ne sais pas ce qu'ils font les coucous, les oiseaux, mais ça c'est en train de se passer à l'intérieur. Beaucoup de bruit, mais il y a un bruit que les souverains sacrificateurs ne supportent pas. Ce sont des enfants en train de crier dans le temple, « Hosanna au fils de David ». Et donc, ils vont venir à Jésus et voici ce qu'ils disent. « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. » N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Bon, Jésus dit que ce que ces enfants disent est la vérité. Même sans le comprendre, ils fêtent et célèbrent cela. Et ces pauvres souverains sacrificateurs, ils sont tellement coincés dans leurs préjugés et dans leur égoïsme et dans leur avarice, qui ne reconnaissent pas que le roi est présent. L'idée que ces enfants savent plus que tous les autres qui sont autour, plus que les sages, plus que les leaders religieux, les choses qu'eux, ils ne comprennent pas, ces enfants ont saisi. Luc nous donne encore une autre information. Il dit quand ils sont venus, on a entendu cela, quand ils sont venus à lui, ils ont dit, dis à tes disciples, de se taire. Et Jésus dit, si je dis cela, ce sont quoi? Les pierres qui vont le crier. Ce sont les pierres. Donc, une fois, c'est faire taire les enfants. Il dit, c'est les enfants, ils sont en train de parler de cette joie qui vient de Dieu, donc il ne faut pas. Et puis, il dit, si on fait taire tout le monde, ce sont les pierres qui vont crier. Et il faut penser que peut-être c'est cela, que Jésus, en train d'entrer dans cet endroit, il est en train de voir ces grosses pierres de l'enceinte, de l'esplanade, qui tiennent l'esplanade du temple en place. Et ces pierres sont énormes, 51 tonnes, n'est-ce pas, qui sont là. Et il dit, si je me taise, les pierres de ces bâtiments vont commencer à crier parce que la bonne nouvelle est présente. Bon, le roi vient. Ne pensez pas que tout le monde ait compris ce qui se passait ou qui allait se passer. Cette même foule qui crie les louanges ce dimanche, le vendredi, criera pour le sang de Christ. Ils veulent sa peau 5 jours après. Jésus vient pour amener les gens dans la présence de Dieu. Notons bien, quand il entre dans la ville, où est le premier endroit où il va? Le premier endroit où il va, c'est où? C'est le temple. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout ce qui se passe qui n'a rien à voir avec Dieu. Le peuple avait transformé la maison de prière pour toutes les nations en lieu de, pour marchander, un lieu de commerce, une caverne de voleurs, dit Jésus. Et Jésus entre et commence à chasser les vendeurs, ces changeurs d'argent. Il commence à faire, même il fait un fouet avec des cordes pour nettoyer. Et il dit, non, ce n'est pas comme ceci qu'on devait traiter la maison de mon père. Ceci est important parce que Jean nous dit, dans Jean chapitre 2, qu'ils ont dit, quel signe nous donnes-tu pour faire cela? Et il a dit, si je me souviens correctement, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. En 3 jours, je le relèverai. Et puis ils disent, 46 ans, ça nous a pris. Jusqu'à là, ce n'était même pas fini. 46 ans, ça nous a pris. Et puis il dit, mais il parlait du temple de son corps. Le temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. Le temple sera rasé un jour. L'année 70, ce sera les armées romaines qui vont se mettre autour et qui vont débarrasser toutes les pierres, vont les jeter tout en bas dans les vallées autour et le temple n'existera plus. Car le vrai temple est venu. On fait juste 2 minutes de parenthèse, ok? Je vais ouvrir quelque chose avec vous. 2 minutes de parenthèse. Quand Moïse a fini avec le tabernacle et a préparé pour que le peuple, c'est l'inauguration du tabernacle, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Il y a la présence de Dieu qui s'est manifestée. Vous vous souvenez? C'était le feu et la nuée. Il ne pouvait pas entrer dedans. Quand Salomon a fini le temple à Jérusalem, quelle était la manifestation de la gloire de Dieu? C'était la nuée qui est entrée, cette nuée lumineuse qui est entrée dans le temple, et les prêtres ne pouvaient pas y entrer parce que la présence de Dieu était là. Et ce temple, qui était construit à 515 avant Jésus-Christ, et puis refait par Hérode, vous savez quand ils l'ont construit, ce qui s'est passé? Rien. Vous savez qu'il n'y avait pas de nuée qui est venue, il n'y avait pas de feu de Dieu, il n'y avait pas de tremblement de terre. La gloire de Dieu ne s'est présentée. Ézéchiel, chapitre 11, les versets 22 à 25, dit que Ézéchiel était transporté par le Saint-Esprit dans la ville de Jérusalem et il a découvert toute l'idolâtrie qui se trouvait à l'intérieur du temple. Et il a vu des chérubins, des êtres célestes, qui ont pris la gloire de Dieu en dehors du temple de Jérusalem et qui est allé sur le mont des Oliviers. Et c'est là la dernière fois que nous voyons la gloire de Dieu dans le temple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et puis Jésus descend des monts des Oliviers, assis sur un âne. Et il entre dans la ville de Jérusalem et il va au temple Et vous savez quoi? La gloire de Dieu est entrée dans le temple de Dieu. Dieu garde sa promesse. La gloire et la présence de Dieu est là. Et donc, Jésus, ce roi, devient Jésus, le temple, celui qui amène ou mène les gens dans la présence de Dieu et dans sa gloire. Et il vient pour régner. Vous avez l'entrée triomphale, l'âne, les branches, les louanges. Vous avez l'entrée triomphale. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Chant pour honorer le roi. Vous avez l'entrée à Jérusalem. Hosanna, Hosanna, crient tous. Vous avez l'entrée triomphale. C'est la préparation pour une vie avec Dieu. Vous savez, de tous les endroits de l'Évangile, c'est ici que nous avons la déclaration la plus claire de Jésus comme roi. Sauf, 5 jours plus tard. Pilate, es-tu le roi des Juifs? Pilate, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ, c'est-à-dire le roi, le futur roi? Que ferai-je avec le Christ? L'inscription sur la croix, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, écrit en 3 langues. Il a sauvé les autres. Et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. L'entrée à Jérusalem et le vendredi de la crucifixion, tous les deux, proclament la gloire du Christ et la souffrance du Christ. Les deux événements crient la royauté de Jésus. Qui a accepté sa royauté? Surtout, je suis impressionné par le fait que ce sont des Galiléens, des paysans, les boiteux, les nécessiteux, les enfants, qui ont accepté Jésus et qui l'ont annoncé roi. Incroyable, n'est-ce pas, que les leaders le rejettent, mais les simples et les pauvres et les rejetés savent qui il est. Jésus a dit que les pierres allaient crier, qu'il était le roi si les gens se taisaient. Et peut-être nous pouvons penser au silence de la croix, que Jésus, sur la croix, crie de nouveau d'une voix forte et rendit l'esprit. Et vous savez, à ce moment-là, c'est la nature qui va crier que Jésus est roi. Dans le temple, c'est le rideau du sanctuaire, le voile qui est déchiré en deux, du haut en bas. Il y a les pierres qui crient car il y a tremblement de terre et il y a tout qui bouge. Il dit ici que les rochers se fendirent en criant que Jésus, le roi, est mort. Les tombeaux s'ouvrent, les corps de nombreux saints des femmes ressuscitèrent. Ils sont sortis des tombeaux et après la résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens. Les pierres bougent. Ils déclarent la gloire du roi, celui qui se donne pour son peuple. Et il y a un autre cœur, un cœur de pierre qui est fendu. C'est un centenier qui voit tout ce qui se passe et qui voit le roi des Juifs rendre son esprit à Dieu. Et il dit, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Je me demande, qui sont les gens qui vont répondre au message du roi Jésus aujourd'hui? Allons-nous lui ouvrir notre cœur. Et s'il est déjà entré, allons-nous lui donner le siège du trône de notre vie, promettant notre fidélité, lui donner la possibilité de faire de l'ordre dans notre royaume, car Jésus-Christ est le roi. Venez et faire sa connaissance.